Les restrictions dues à la pandémie du Covid-19 continuent en ce mois d'avril 2021 et je produis mon programme depuis mon domicile à Buenos Aires dans le but de maintenir le lien avec nos auditeurs de RAE en langue française. Ainsi, qui vous parle, Eric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du web, et sous la direction de Adrien Colol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles en attendant le retour au studio de Radio Nationale Argentine. Maintenant, place à l'actualité. Les titres. Covid-19, le système de santé argentin est sur le point de sombrer et de nouvelles restrictions entrent en vigueur. Au Brésil, la plupart des patients atteints de Covid-19 en soins intensifs ont moins de 40 ans. Le conservateur Guillermo Lasso, élu président de l'Équateur, tandis qu'un paysan de gauche a remporté le premier tour au Pérou. Des sources du secteur agro-exportateur prévoient que l'Argentine sera à nouveau le premier vendeur de soja au monde en 2021. Le Chili adopte une loi accélérant l'expulsion des migrants. Sport, le Racing bat Independiente 1-0 sur un pénalty controversé dans l'un des plus grands derbys du football argentin. Le système de santé argentin est au bord de l'effondrement en raison de la croissance féroce des infections au coronavirus qui continue de battre des records. Mardi 13 avril, elles ont atteint 27 000 en une seule journée. Les autorités des hôpitaux publics, les prestataires de soins de santé privés, les programmes de santé des syndicats et le gouvernement de la province de Buenos Aires ont publié une déclaration dans laquelle ils mettent en garde. De cette façon, il n'y a pas de système qui puisse résister. Le mercredi 14, le président Alberto Fernández a annoncé de nouvelles restrictions pour Buenos Aires et sa grande banlieue, connue sous le nom de AMBA. Il a fait savoir que l'AMBA constitue une seule agglomération urbaine, l'une des plus peuplées des Amériques, et que c'est là que nous connaissons l'augmentation la plus rapide des cas depuis le début de la pandémie. Il est donc de notre devoir d'adopter des mesures supplémentaires et de faire avancer le plan de vaccination pour éviter la saturation du système de santé. Fernández a ajouté que le plus grand risque de transmission se produit dans les activités sociales et récréatives de nuit, et il a résolu de restreindre la circulation nocturne entre 20h et 6h du matin, les activités récréatives, sociales, culturelles, sportives et religieuses dans les lieux fermés sont suspendues, les activités commerciales seront fermées à 19h. Par ailleurs, du lundi 19 au vendredi 30 avril, la modalité virtuelle reprendra pour les trois niveaux d'enseignement. Le président a détaillé que, comme en 2020, le gouvernement national travaille à la réorganisation du système de santé pour donner la priorité à l'attention de la maladie Covid-19 dans le cadre de la deuxième vague. Il a également indiqué que le pays continue de négocier avec les fournisseurs de vaccins et que le week-end, une nouvelle cargaison arrivera pour poursuivre le plan de vaccination, rappelant que les gouvernements provinciaux peuvent gérer eux-mêmes l'acquisition des vaccins. Jusqu'à présent, en Argentine, près de 6 millions de personnes ont déjà reçu une première dose de Sputnik V, AstraZeneca ou Sinopharm, dont 95% des agents de santé. En outre, le traitement contre le Covid avec le sérum équin, développé en Argentine, a été approuvé par une revue du groupe The Lancet. Selon la publication britannique, le composé a réduit de 44% la mortalité des patients atteints de coronavirus, la nécessité d'une thérapie intensive de 29% et la dépendance à la respiration mécanique de 33%. Le sérum est produit par un consortium scientifique public-privé et a déjà été appliqué à 1200 patients. Les résultats de ces tests sont ceux approuvés par l'Agence de réglementation des médicaments ANMAT, publiés dans la revue Clinical Medicine. Au Brésil, la plupart des patients atteints de Covid-19 en soins intensifs ont moins de 40 ans. C'est ce qu'affirme l'Association des médecins de soins intensifs du pays sud-américain, qui a atteint la semaine dernière le record de 4249 décès en une seule journée. Selon cette source, 52% des patients en soins intensifs sont âgés de 39 ans ou moins, alors qu'il y a un an, au début de la pandémie, ils ne représentaient que 14% du total. Deux facteurs expliquent le phénomène. D'une part, de nombreuses personnes âgées ont déjà été vaccinées. Et d'autre part, les jeunes sont plus exposés à la contagion car ils respectent moins les mesures de distanciation sociale. Entre-temps, le président Jair Bolsonaro maintient sa position contre les restrictions qui sont appliquées par les gouvernements des États et il a comparé les mesures sanitaires telles que la quarantaine à une dictature. De son côté, le gouvernement chilien a défendu l'efficacité du vaccin CoronaVac du laboratoire chinois Sinovac, le plus utilisé dans le pays sud-américain, qui a déjà appliqué au moins une dose à 45% de sa population. Le ministre de la Santé, Enrique Paris, a affirmé que le médicament est efficace à 100% pour prévenir le développement d'un cas grave de Covid-19, mais qu'elle est moindre pour les cas les plus légers. Il s'agit d'une réaction à la controverse soulevée par un haut fonctionnaire chinois qui a déclaré que les vaccins de cette origine ont une faible efficacité. Pékin a déclaré par la suite qu'il s'agissait d'un malentendu et que ce dont il est question, c'est de l'intention d'accroître encore son efficacité en combinant différents vaccins. En Équateur, le candidat conservateur Guillermo Lasso a remporté le scrutin le 11 avril et sera le nouveau président de la nation sud-américaine. Avec 52,4% des voix, il a battu son rival de centre-gauche, Andrés Arauz, qui a obtenu 47,6%. Dans son premier discours après la victoire, Lasso a déclaré « C'est un jour historique au cours duquel les Équatoriens ont décidé de leur avenir. Ils ont exprimé par leur vote le besoin de changement et le désir de jours meilleurs pour tous. » Pour sa part, Arauz, qui avait le soutien de l'ancien président Rafael Correa, qui a dirigé le pays entre 2007 et 2017, a dit « C'est un revers électoral, pas une défaite politique ou morale ». Lasso, un ancien banquier de 65 ans qui s'était déjà présenté deux fois à la présidence, prendra ses fonctions le 25 mai et succédera à Lénine Moreno. Le président élu a annoncé qu'au cours des 100 premiers jours de son mandat, il allait vacciner 9 millions d'Équatoriens contre le coronavirus, soit plus de la moitié de la population. Des élections ont également eu lieu dimanche dernier au Pérou, où le résultat a été une surprise, puisque aucun sondeur n'avait prédit que l'enseignant et syndicaliste de gauche Pedro Castillo arriverait en tête. Le candidat du Pérou Libre a obtenu 19% des voix et participera du deuxième tour le 6 juin, où il affrontera la candidate de droite Keiko Fujimori, qui a recueilli plus de 13% des voix. Keiko est la fille de l'ancien président Alberto Fujimori, qui a gouverné le pays entre 1990 et 2000, et actuellement en prison pour des crimes contre l'humanité commis par son gouvernement dans le cadre de la lutte contre les groupes d'insurgés. Selon la bourse de Rosario, l'Argentine sera cette année à nouveau le premier exportateur mondial de farine et d'huile de soja, suivi par le Brésil, les États-Unis et le Paraguay. L'entité de Rosario, spécialisée dans les transactions agricoles, prévoit qu'en 2021, 26 600 000 tonnes de farine de soja seront vendues, contribuant ainsi à 40% du total mondial grâce à la reprise de la demande en Chine et en Inde. Quant à l'huile, le volume prévu est de 5 400 000 tonnes. Le soja et ses dérivés représentent un quart des exportations de l'Argentine, avec un volume annuel de 35 millions de tonnes. Sur un autre front, le ministre argentin de l'économie, Martin Guzmán, a entamé une tournée officielle en Allemagne, Espagne et France pour rencontrer des fonctionnaires et des investisseurs. L'objectif principal est d'obtenir un soutien pour la renégociation de la dette de 44 milliards de dollars auprès du Fonds monétaire international. Au Chili, une réforme de l'immigration qui accélérera l'expulsion des étrangers, principalement des Vénézuéliens, entre en vigueur. La loi a été promulguée par le président Sebastián Piñera et a suscité l'inquiétude des organisations qui défendent les droits des migrants. La loi, qui est en discussion au Congrès depuis plusieurs années, établit que les personnes qui souhaitent s'installer dans le pays doivent d'abord demander un visa au consulat chilien de leur pays d'origine. Selon Piñera, l'objectif de la loi est de mettre de l'ordre par une politique ordonnée, sûre et régulière, après la grande vague de migration arrivée au Chili en 2014, principalement composée de Vénézuéliens. Le président a déclaré que, grâce à la nouvelle législation, il sera plus facile d'expulser ceux qui tentent l'entrée sans valider leur casier judiciaire. Les organisations de défense des étrangers ont averti que les nouvelles règles permettent aux forces frontalières d'agir sans contrôle. Et ils déplorent que les nouveaux arrivants ne soient pas autorisés à expliquer les raisons de leur entrée dans le pays par des passages non autorisés ni à demander l'asile. Selon RFI, pour le seul mois de janvier, près de 4000 Vénézuéliens ont tenté d'entrer au Chili à pied depuis la Bolivie par le col de Colchane en empruntant une route très accidentée à 3500 mètres d'altitude. 4 des migrants en sont morts et 87 d'entre eux ont déjà été expulsés, selon le média français. Sport. Le Racing s'est imposé 1-0 contre Independiente dans l'un des principaux derbys d'Argentine, le classique d'Avellaneda, ville de Buenos Aires où les clubs ont leur stade à 100 mètres l'un de l'autre. L'équipe locale a gagné grâce à un pénalty que l'arbitre, Mauro Vigliano, a reconnu comme étant une erreur. Dans d'autres nouvelles du football, le quotidien sportif espagnol Sport suggère que l'attaquant argentin Sergio Agüero pourrait rejoindre le FC Barcelone et reproduire le partenariat qu'il a formé avec Lionel Messi en équipe nationale.
Fue mucho mi penar andando lejos del pago. Tanto correr para llegar a ningún lado. Y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más. Así es como se dan en la amistad mis paisanos. Sus manos son pancacho y mate cebado, y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. La viria me han prestado y tengo que devolverla cuando el criador me llame para la entrega. Que mi hueso es fiel y sana por el mi suelo natal.
La française Mandy Le Rouge présente son album La Madrugada, l'aube, où elle offre certains des plus grands classiques du folklore argentin. Mandy a découvert le pays en 2014 et depuis, elle en est devenue une fervente ambassadrice culturelle. C'est ce qu'elle raconte dans ce reportage pour RAE en langue française.
Je m'appelle Mandy Le Rouge, j'ai 32 ans, je suis chanteuse française. J'habite au sud de la France, au bord de la mer Méditerranée, dans une ville qui s'appelle Marseille. Mais j'ai grandi à la montagne, entourée de nature, dans une ville qui s'appelle Briançon, dans les Alpes françaises, tout proche de la frontière italienne. Mon lien avec l'Argentine s'est construit au fil des années, au gré des rencontres, de belles rencontres, mais aussi au gré des voyages et des surprises qu'ils peuvent réserver. Je suis allée pour la première fois en Argentine en 2014, vraiment dans le but de connaître le peuple cavalier des gauchos, connaître les chevaux argentins et les paysages dans lesquels ils évoluent, puisque moi j'ai grandi à cheval dans les montagnes des Alpes françaises. Je suis passionnée par les chevaux, amoureuse des chevaux, et c'était comme un rêve de l'adolescence de pouvoir découvrir tous ces paysages, ces chevaux et ce peuple mythique que sont les gauchos. Je suis donc partie en 2014 avec ce but en tête et aussi pour danser un peu le tango, puisque ça fait maintenant une dizaine d'années que je danse le tango. Et les surprises du voyage ont fait que je suis partie du côté de Salta et j'ai pris un bus très tôt le matin à la madrugada. J'ai pris un bus pour aller de la ville de Salta à celle de Tilcara. Et dans ce bus, je voyais les paysages de la cordillère des Andes qui défilaient dans cette lumière du petit matin, un peu rougeoyante, ces couleurs étonnantes sur ces montagnes aux sept couleurs. J'étais un peu comme dans un rêve éveillé, justement, entre le sommeil et le rêve. Et là, le chauffeur du bus s'est mis à écouter très fort les musiques du nord de l'Argentine. Et c'est là que j'ai entendu pour la première fois ce qu'était une chacarera et une samba. Et j'ai été surprise puisqu'il devait être 6 heures du matin à peu près. Et les Argentins qui étaient autour de moi aussi dans ce car, ce bus, buvaient le maté, parfois faisaient las palmas de la chacarera. Donc je les entendais taper dans les mains. Je les voyais connaître ces chansons, chantonner tout en buvant le maté. Et c'est pour moi un souvenir très fort de ma découverte de cette culture argentine, de ces cultures argentines du Nord, dont j'ignorais totalement l'existence. Un an après, en 2015, quelques jours après les tragiques attentats qui ont frappé la ville de Paris en France, j'étais justement dans cette ville de Paris et je me suis retrouvée à un concert de Django Spasiuk, qui était de passage en France, qui était en tournée en France. Je ne connaissais pas du tout sa musique et pour la première fois, j'ai entendu ce qu'était le chamamé et les musiques du nord-est de l'Argentine lors de ce concert à Paris au musée du Quai Branly. Et je pense que je peux dire que ce concert a réellement changé ma vie et mon approche de la musique, puisque je n'ai absolument pas compris ce qu'il se passait, ce qu'il m'arrivait, et encore aujourd'hui je ne peux pas l'expliquer. Pendant ce concert, j'avais envie de taper dans les mains, de chanter, de pleurer, de danser, de chanter. J'ai à peu près fait tout ça à la fois pendant ce concert-là, quelque chose de très puissant, un sentiment qui ne s'explique pas, puisque je n'ai aucun lien à la base avec l'Argentine. Moi, je suis française, née d'un papa qui vient de Madagascar, ma maman vient du nord de la France, je n'ai pas du tout de sang argentin, et pourtant j'ai été complètement bouleversée par ce concert, bouleversée par ces musiques-là, alors qu'à l'époque, je ne parlais presque pas un mot d'espagnol, je ne comprenais pas ce qui se disait dans les textes, donc c'était quelque chose vraiment de l'ordre de l'émotion musicale et de ces émotions qui se transmettent sans avoir besoin de pouvoir mettre un sens sur des mots. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée, bouleversée, et à partir de là, j'ai souhaité connaître plus de choses sur le folklore argentin, donc j'ai acheté des disques de Chango Spasiuk, et puis j'ai écouté beaucoup de musique grâce à des amis argentins que j'ai rencontrés ensuite en France. J'ai appris à danser la chacarera et la samba. Nous avons la chance à Marseille, où je vis dans le sud de la France, d'avoir un conservatoire populaire de folklore argentin, de danse, pas de musique, mais de danse, où j'ai pu apprendre à danser auprès d'une Française, comme moi, passionnée par l'Argentine, qui s'appelle Marion Guazana, mais aussi auprès d'un danseur argentin installé en France, qui s'appelle Guillermo Salazar, qui vient de Córdoba, de San Marcos Sierra, très précisément, et qui est un gaucho qui a grandi à cheval lui aussi, mais aussi auprès d'un grand maestro qui est devenu depuis un ami qui s'appelle Luis López, Luis Luchín López, qui vient de Santiago del Estero et qui a été très longtemps danseur au Cirque du Soleil au Canada. Et c'est comme ça que je me suis vraiment prise d'amour pour ces musiques, aussi grâce à la bienveillance de tous ces musiciens, tous ces danseurs que j'ai pu rencontrer, qui, encore une fois, je n'ai aucune origine argentine et j'ai été frappée par la gentillesse, la bienveillance, l'indulgence aussi avec lesquels ils m'ont accueillie dans ce milieu-là du folklore argentin. Ils ont toujours voulu m'apprendre des nouvelles chansons, m'aider à en connaître plus, m'aider à comprendre aussi parfois les paroles, notamment lorsqu'elles étaient soit en guarani, soit en quechua pour certaines chacareras et en guarani pour certaines chamamés, mais aussi en espagnol, puisque je ne le comprenais pas, je ne le parlais pas à l'époque. Maintenant, je m'y suis mise et je pense avoir fait quelques progrès en espagnol. Mais vraiment, je note cette bienveillance. Et aussi, ce qui me plaît beaucoup, moi, dans ces musiques-là, c'est le fait qu'elles soient totalement liées au quotidien des Argentins, encore aujourd'hui. Je parle des musiques, mais je parle aussi, bien sûr, des danses. Lorsque je suis retournée là-bas en tout début 2020, avant que le virus que l'on connaît aujourd'hui soit vraiment une pandémie, j'ai eu cette opportunité de voyager du nord-est au nord-ouest, d'Iguassu jusqu'à Santiago del Estero, en passant par la province de Corrientes, la ville d'Esquina. J'ai eu l'opportunité de chanter aussi avec Chango à la Fiesta Nacional del Chamamé à Corrientes. Et j'ai été vraiment touchée de voir que le peuple argentin, encore aujourd'hui, est très attaché, quelle que soit la province, quelle que soit la musique, ils sont attachés à cette musique, ces danses au quotidien, le fait aussi que ce soit lié à des repas, que ce soit l'asado, les empanadas, le fait vraiment de partager. Et c'est cette culture du partage qui, moi, me touche beaucoup autour de la musique. J'ai pas la chance, pas la connaissance de ça en France. Il existe évidemment des musiques qui sont populaires et qui sont liées à des cultures régionales en France, mais je n'ai pas eu cette chance de grandir dans une transmission aussi approfondie, aussi présente de la musique et de la danse au quotidien, et ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de fréquenter en France, ce n'est pas quelque chose d'aussi ancré en fait dans la culture française. Même en France, lorsque j'ai commencé à dire que je chantais du folklore argentin, le mot de folklore peut parfois prêté à une mauvaise interprétation en France, comme si c'était quelque chose qui était réservé aux anciens, aux personnes âgées, qui n'était pas censé être quelque chose du quotidien, des personnes plutôt jeunes, des musiciens plutôt jeunes comme moi. Si j'ai pu aussi apprendre aussi rapidement de ce répertoire, l'histoire de ce répertoire, c'est aussi grâce à de grandes rencontres. Il y a eu d'abord, évidemment, la rencontre avec Django Spasiuk lors de ce concert, et puis grâce à un ami que nous avons en commun, j'ai eu l'opportunité de le fréquenter un peu plus, de le connaître un peu plus, mais aussi de l'inviter en 2016, alors que j'ai souhaité organiser un festival dédié au folklore argentin à Marseille, dans ma ville. Un festival d'une semaine dédié à la musique, mais aussi à la danse, à la gastronomie argentine, au cinéma argentin qui parle de ces folklores, de ce folklore argentin. Django Spasiuk a accepté d'être le parrain de cette première édition du festival à Marseille. Il a passé une semaine entière avec nous à Marseille à transmettre ses connaissances, à nous raconter ses histoires. Et il m'a invité à chanter à ce moment-là, en 2016, pour la première fois, un chamamé. El Bujero, et j'ai eu la chance donc de chanter pour la première fois de ma vie un chamamé avec Django Spasiuk, mais aussi avec les merveilleux musiciens qui l'accompagnent, Pablo Farat au violon et Marcos Vigalba à la guitare et aux percussions ce soir-là. Et ça a vraiment été une magnifique rencontre pour moi d'avoir pu apprendre de ce grand artiste, mais aussi cet humain très simple, cet humain généreux qu'est Django Spasiuk.
Je soy bujero, no tengo pesares en tono cantares de amor. Quiero cuidar mi bullada porque sé que nada será mejor. Las alboradas son mis compañeras por esas praderas de Dios. Y los ocasos sorprenden mis pasos de vuelta cantando así. Feliz a mi bueyes yo sé cuidar con dedicación.
Par la suite, nous sommes restés en contact et régulièrement, lorsque j'avais des questions, des incompréhensions sur le répertoire argentin, j'ai pu lui poser ces questions-là directement depuis la France, à distance. Et lors de mon voyage en 2020, il m'a énormément aidée aussi à pouvoir aller dans les endroits importants pour comprendre, pour découvrir encore un peu plus ces cultures-là. Mais il m'a fait aussi l'immense cadeau de m'inviter à chanter El Cosechero, au berceau même du chamamé, à Corrientes capitale, lors de la Fiesta Nacional del Chamamé 2020. Esperanza cantaré con manos curtidas, dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera entrarás, prenderá mi sangre con un ronco sapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Ça a été pour moi un cadeau exceptionnel, puisque j'appréhendais, j'imaginais ce qu'était ce festival, ce qu'était le berceau du chamamé, ce qu'était le fait d'entendre autant de sapukai. Mais là, être au berceau du chamamé et entendre 15 000 sapukai d'un coup, alors que j'étais sur scène à Corrientes, à la Fiesta Nacional du Chamamé, c'était juste impensable. Et si je devais résumer ça en quatre mots, ce serait « gracias a la vida ».
Quiero que la noche dure una vida. Quiero que mi vida dure una canción. Correr descalza por el pasto y estrechar tu mano y soñar con vos. Noche de mis sueños, escuchar tu corazón latir y desaparecer. Noche de mis sueños, escuchar tu corazón latir y desaparecer.
Ma rencontre avec Daniel Melingo s'est fait un peu plus tard, il y a maintenant 2 ou 3 ans, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet. En fait, j'ai commencé à découvrir son travail assez tardivement, à ce moment-là à peu près, et j'ai flashé sur une de ses chansons qui s'appelle La Noche, qui maintenant est sur l'album, mais que j'ai la chance de chanter avec lui en duo sur l'album. Et cette chanson, je l'ai tellement aimé quand je l'ai écouté, que ce soit la musique comme le texte, que j'ai voulu en faire une version. À l'époque, je ne connaissais pas beaucoup de musiciens argentins, j'étais pas du tout chanteuse professionnelle, et j'ai enregistré cette chanson toute seule, chez moi, dans mon salon. Je me suis filmée en train de chanter a cappella La Noche, et je l'ai publiée sur les réseaux sociaux, et j'ai étiqueté Daniel Melingo, juste pour dire au public, voilà une chanson que je chante qui a été écrite et composée par Daniel Melingo. Et j'ai eu la surprise que Daniel Melingo a vu la vidéo, l'a visiblement appréciée et m'a envoyé un message. Et c'est comme ça en fait que nous sommes rentrés en contact. Et plus tard, lorsque j'ai commencé vraiment à me dédier à ces musiques-là, à préparer mon répertoire et surtout à préparer l'enregistrement de l'album, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai envoyé un message vocal par WhatsApp et je lui ai demandé, je lui ai proposé s'il serait d'accord et partant pour partager ce duo avec moi en studio et chanter donc La Noche ensemble en duo puisqu'il devait être en tournée en France au moment de l'enregistrement de l'album. En ce qui concerne Raúl Barbosa, encore un monument du chamamé et de la musique argentine que nous avons la chance d'avoir en France puisqu'il vit à Paris depuis maintenant de longues années, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs occasions lors de ses concerts alors que j'étais simple public et je suis allée le saluer à plusieurs reprises après ses concerts. Et puis lors de la dernière tournée de Django Spasiuk en France, Django Spasiuk et Raúl Barbosa partageaient la scène dans un projet qu'ils avaient en commun. Et ils m'ont fait tous les deux le cadeau de m'inviter sur une des dates à chanter El Cosechero. Donc j'ai encore eu l'occasion de chanter El Cosechero particulièrement bien accompagné avec Raúl Barbosa et Django Spasiuk. Hasta el eco de alma.
que volveré repartida en el aire a cantar siempre.
Gada, c'est le nom de mon premier album qui est sorti en novembre 2020. L'idée de cet album, c'est un peu de raconter mon histoire avec l'Argentine, de raconter mon voyage et comment je me suis imprégnée de ces musiques-là pour l'adapter d'une manière qui est à mon image, qui me ressemble et qui ressemble à mon parcours dans la musique. J'ai absolument pas la prétention de me faire passer pour une Argentine et d'essayer de chanter exactement comme une Argentine. Je pense que j'en serais incapable puisque je n'ai pas baigné dans cette culture depuis la naissance, je n'ai pas grandi dans cette culture. Alors ce que j'essaye de faire, c'est de partir de ce répertoire, puisque tout le répertoire de l'album est un répertoire populaire. Il y a des titres de Los Hermanos Simón, de Ramón Ayala, de Los Carabajal, aussi de Cuchi Leguizamón. Bref, ce sont vraiment des standards du répertoire argentin. Chacarera de un triste, La Renosa, Samba para no morir, Romance de la Luna Tucumana de Atahualpa Yupanqui, mise en musique par Pedro Aznar, El Cosechero, bien sûr, El Boyero, Entre a mi pago sin golpear. Bref, ce sont des tubes, on va dire, des musiques argentines. Mais j'ai demandé à Lalo Zanelli, qui est un Argentin, un pianiste, compositeur, qui vit en France depuis une trentaine d'années, de faire des arrangements de ces morceaux populaires argentins pour y amener notamment une touche de jazz et quelque chose donc qui ressemble à moi, mon parcours, ma manière de chanter et mon histoire avec ces musiques-là. Sur scène, nous sommes quatre. Il y a donc Lalo Zanelli au piano, à la contrebasse Felipe Nichols, qui est colombien, et aux percussions et à la batterie Javier Estrella, qui lui aussi est argentin, et moi donc qui chante. Et l'idée était donc de se rapprocher un peu de la formation du trio de jazz avec voix, puisqu'on est sur piano, contrebasse, percussion, batterie, voix. C'est quelque chose qui se rapproche vraiment de cette touche jazz que je voulais donner, sans pour autant que ce soit un projet de fusion. Je voulais rester très proche quand même de la tradition argentine. Notamment, une des demandes que j'ai pu faire à l'arrangeur était de garder les structures des danses, aussi bien que ce soit en France ou en Argentine, si nous jouons le répertoire de la madrugada sur scène, nous avons gardé les structures des danses pour que les gens qui savent danser la chacarera, la samba, puissent danser pendant nos concerts sur ce répertoire-là. C'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et j'ai toujours cette inquiétude de ne pas manquer de respect à cette tradition-là, de rester dans quelque chose qui fasse honneur à ces histoires, à cette tradition qui descend d'un côté des Guarani, de l'autre des Quechua. C'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur et c'est aussi pour ça que j'ai tenu à m'entourer d'Argentins sur scène. Pour le mois de juin 2021, le 21 juin 2021, nous préparons une surprise spécifiquement pour le public argentin. Nous sommes empêchés pour l'instant de voyager. Il est impossible de voyager à cause de la pandémie. Il est aussi impossible de faire des concerts. En France, c'est encore interdit. Les lieux sont fermés. Nous n'avons pas le droit de rassembler du public. Mais j'avais envie, terriblement envie, de pouvoir partager cette musique-là, remercier les Argentins d'une certaine manière en partageant tout ce qu'ils ont pu me donner, le partager avec eux maintenant, le résultat de cet album, de ce voyage, de ces tournées que j'ai pu faire en France. Alors, comme il n'est pas possible d'aller au public, nous allons essayer de partager quand même un concert et je n'ai absolument pas envie de filmer un concert dans une salle vide. Alors, nous allons filmer ce concert dans la montagne, dans de magnifiques paysages, dans les Alpes où j'ai grandi, entourée par les montagnes dans lesquelles j'ai pu grandir. Et l'idée aussi est de rendre hommage à la nature. Le répertoire du folklore argentin parle beaucoup de la nature et de l'attachement de l'humain à sa terre d'origine. C'est aussi ce que m'a fait découvrir le folklore argentin. Chanter ces textes-là m'a fait découvrir, m'a fait prendre conscience à tel point j'étais moi-même attachée à ma terre d'origine, aux montagnes dans lesquelles j'ai grandi, dans ces paysages de nature dans lesquels j'ai grandi. Et c'est pour ça que nous allons faire ce concert entouré de lacs, entouré de montagnes, avec le chant des oiseaux, avec le son de la nature. Et nous partagerons ce concert sur YouTube, sur mon canal YouTube, Mandy Le Rouge. Ce sera le 21 juin 2021. Puisque ce sera la fête de la musique en France, mais aussi dans plus de 120 pays dans le monde.
Ainsi se termine ce programme en français de RAE, l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.